Le journal, Mireille Boukassa.
Plus de 300 cas de rougeole, dont 20 décès enregistrés depuis juillet 2007 dans la localité de Kanda, dans le Katanga. Les plus touchés sont les enfants de 9 mois à 15 ans. Le centre de santé qui accueille ces malades manque des médicaments pour leur prise en charge. Des tirs nourris à l'arme lourde ont été entendus pendant plus de 5 heures hier à Eringeti, au nord Kivu. Le bilan fait état de 3 morts, dont un civil. Des sources militaires parlent d'une attaque des rebelles ougandais à Def Nalu. À Kinshasa, les habitants de la commune de Kisinso ont bénéficié d'un don de la coopération technique belge. Une école, une morgue et un siège pour le conseil communal de Kisinso ont été inaugurés ce mardi. Bonsoir. La rougeole sévit sur une partie de la province du Katanga. Plus de 300 cas, dont 20 décès, ont été enregistrés depuis juillet 2007 dans la localité de Kanda. C'est à 62 km au nord de Ankoro. Les plus touchés par cette maladie contagieuse sont les enfants de 9 mois à 15 ans. Cependant, le centre de santé de Kanda manque actuellement de médicaments pour la prise en charge des malades et des cas de malnutrition sont également signalés. Pour trouver de l'aide, l'infirmier superviseur du centre de santé de Kanda s'est rendu à Ankoro. Tachele Kyungu est joint au téléphone par Madeleine Waila.
Effectivement, nous avons les cas de rougeole au centre de santé de Kanda à 62 km d'Ankoro. Nous avons enregistré 302 cas. Et c'est sur 302 cas, nous avons connu 20 décès parmi les enfants enregistrés. En premier lieu, nous avons reçu les médicaments, un lot de Médecins du Monde, et qui nous a servi pour un temps. Malheureusement, ce lot est terminé. Cependant, actuellement, nous n'avons pas les médicaments. Nous n'avons pas les médicaments pour supporter les coûts de ces enfants. La plupart des enfants sont les enfants de 9 mois à 14 ans. Parmi les enfants des groupes de déplacés, d'une zone voisine, on ne sait pas lire le calendrier vaccinal. Et parmi ça, il y a aussi les églises, telles que les églises de Sestawa et les postes qui ont toujours refusé la vaccination. Maintenant, c'est parmi ces gens-là que nous avons reçu en masse. Actuellement, la rougeole continue. Parmi ces enfants, nous avons constaté aussi qu'il y a l'installation de la malnutrition. Nous avons dû enregistrer à peu près 30 à 40 enfants auxquels nous n'avons pas une assistance.
Dans le registre sanitaire, toujours, une épidémie de fièvre typhoïde est signalée dans la zone de santé de Nyoki, une cité située à 115 km de Bandunduville. Plus de 350 cas, dont 2 morts, ont été enregistrés la semaine dernière et la zone de santé qui usait jusque-là des moyens de bord se dit débordée et déplore le manque des médicaments pour la prise en charge des malades. Baziba Kumbane dresse le tableau de la situation.
Selon le responsable de la zone de santé de Nyoki, joint au téléphone, la situation devient de plus en plus grave. De malades admis dans le centre de santé de Kengoubou et dans le pavillon cédé par l'hôpital des Sceaux des Forts n'ont plus rien comme traitement. Les lots de médicaments qu'est disposée la zone de santé étant complètement épuisés. Depuis lors, l'afflux devient de plus en plus important, à telle enseigne qu'on y enregistre de cas de perforation intestinale et déjà 2 décès. Docteur Jean-Claude Bola, médecin-chef de zone de santé de Nyoki, attribue cette situation aux conditions hygiéniques précaires de la population. Population qui, par manque d'eau potable au robinet, recourt à l'eau de la rivière Lukeni, où se déversent toutes les immondices. Pour l'instant, seule la sensibilisation hygiénique en amont tient encore. Mais pour le malade, la situation ne fait que s'empirer. Contacté à ce propos, Dr Philippe Akamituna, ministre provincial de la Santé, promet de convoquer tous les partenaires sanitaires de la province en vue de trouver une solution intermédiaire d'urgence. Du côté de l'inspection médicale provinciale, le Dr Kazeki Akapaya, médecin inspecteur provincial ad intérim, vient de convoquer une réunion d'urgence du comité de lutte contre les épidémies à Bandundu. De Bandunduville, Basile Bakumbane, Radio Okapi.
Au Kasaï occidental, les agences humanitaires craignent d'éventuelles épidémies causées par la consommation de l'eau de la rivière Luembe, rivière située près du lieu de l'accident ferroviaire survenu dernièrement. Et c'est au bord de cette rivière que sont creusées les fosses communes dans lesquelles sont placés les corps des accidentés. À côté de cette priorité, UNICEF, OMS, OCHA, Caritas et International Rescue Committee examinent aussi les moyens d'urgence pour évacuer des malades vers Kananga et surtout soulever les wagons encore couchés sur les morts autour de la rivière. Ces agences ont fait part de leurs préoccupations lors d'une rencontre hier lundi à Kakenye avec le commissaire de district du Kasaï occidental. Les objectifs de cette rencontre avec vous, André Kambala.
C'est pour prévenir les risques des épidémies que posera la consommation de l'eau de la rivière Luembe que les agences humanitaires ont demandé au commissaire des districts d'être leur interprète auprès de la SNCC. Selon Féline Toumba de la coordination de l'aide humanitaire, l'objectif visé est de pousser la SNCC à soulever rapidement les wagons, ce qui permettra de dégager les cadavres visibles en décomposition et bien d'autres encore enfouis en dessous des wagons. Côté médical, l'ONG Memisa a apporté 2 tonnes de médicaments sur place, mais la délégation humanitaire s'évertue, selon la même source, à transférer sur Kananga 8 blessés qui nécessitent une intervention chirurgicale et 20 qui attendent un contrôle radiologique. Tout en saluant les efforts des autorités, les humanitaires déplorent la lenteur dans la prise en charge en nourriture. D'après eux, les victimes n'ont jusqu'ici reçu que le 1/10 de 20 tonnes apportées par le gouvernement. Le bilan est maintenant de 100 morts et de 130 et un blessé qui sont passés par différentes structures sanitaires. La direction d'exploitation de la SNTC renseigne que la grue pour soulever les wagons serait partie hier de Lubumbashi et qu'elle mettrait quelques jours pour atteindre le lieu de l'accident. Kananga, André Kambala, Radio Okapi.
Signalons que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, est attendu à Kananga dans les prochaines heures. C'est le gouvernorat de province qui livre cette information et qui confirme qu'après Kananga, Joseph Kabila va se rendre à Kakyenge, évaluer lui-même l'ampleur des dégâts et consoler les familles des victimes de l'accident ferroviaire de mercredi dernier. Son séjour, annoncé au Kassai occidental, sera le premier du genre depuis qu'il a été élu président de la République. À Eringeti, dans le territoire de Beni, en province du Nord Kivu, des tirs nourris et alarmes lourdes ont été entendus durant toute la nuit jusqu'au petit matin. Le nouveau bilan recueilli auprès des sources administratives que nous avons contactées ce mardi pendant la journée fait état de 3 personnes tuées par balle. Cette situation a provoqué le déplacement de la population de cette localité vers la localité voisine de Luna, se trouvant dans le district de Lituri, en province orientale. Des précisions avec Aliana Alipanagama.
L'attaque a commencé lundi aux environs de minuit. Les assaillants, dont le nombre n'est pas connu, sont venus des collines proches de la cité de Eringeti, précisément du côté Maimoyo. La première attaque a visé les positions des FRDC sans riposte. 2 éléments FRDC ont été tués, affirment plusieurs sources contactées par Radio Okapi. Ensuite, les assaillants se sont mis à piller certains biens qu'ils ont trouvés importants pour eux. Pendant ces pillages, un civil a également trouvé la mort par balle et une fille de 13 ans enlevée puis retrouvée ce matin. Cette opération a pris plus de 5 heures, ont affirmé les mêmes sources. C'est aux petites heures de ce matin que les assaillants se sont retirés vers les montagnes avoisinantes. Cette situation a provoqué un déplacement de la population estimée à 200 personnes vers la localité voisine de Luna, se trouvant dans le district de Lituri. Pendant ce temps à Bunia, une équipe mixte d'officiers FRDC et de la police nationale congolaise a été dépêchée à la limite entre le district de Lituri et la province du Nord Kivu ce mardi matin pour s'enquérir de la situation sur terrain. Bunia, Aliana Alipanagama, Radio Okapi.
Et puis ce problème dans la 3e phase des opérations de désarmement, démobilisation et réinsertion en Ituri, les leaders des groupes armés de ce district s'opposent au principe « un homme, une arme ». Ce principe est la condition posée pour qu'un combattant puisse adhérer à cette 3e phase. Selon les leaders du MRC, du FNI et du FRPI, la plupart de leurs combattants ne disposent pas d'armes comme c'est le cas dans une armée classique. Le chargé des opérations de la 3e phase de PNDDR au bureau du PNUD à Bounia indique que ce principe a été arrêté en concertation avec le ministre de la Défense avant même le début des opérations de désarmement. Isaac Remoyope.
Colonel Peter Karim, ancien leader du FNI, indique qu'il s'est présenté hier lundi avec 70 combattants au site de Kwandroma à 175 km au nord de Bounia, muni d'une dizaine de Kalachnikov. Cependant, il regrette que la plupart des combattants qui n'avaient pas d'armes n'aient pas été admis au site de désarmement. Même plainte formulée hier par Colonel Mathieu Ngoudjolo, ancien dirigeant du MRC. Il indique avoir envoyé samedi dernier plus de 200 combattants point de désarmement des délais de Kasseni, dont la plupart ne détenant pas d'armes n'ont pas été accueillis. Selon lui, le principe « une personne, une arme » n'encourage pas l'adhésion massive des combattants au processus.
Nous ne sommes pas dans une armée classique, là où on peut avoir une personne, une arme. Ça ne peut pas se faire. Il y avait des débats, on avait discuté. Nous aussi, on avait donné notre préoccupation. Comme ça n'a pas été accepté, c'est pour cette raison-là, vous voyez qu'il y a quelques têtes seulement qui s'est présenté là-bas.
Le FRPI de Cobra Matata partage la même préoccupation. Contacté à ce sujet, les chargés d'opération de la 3e phase de PNDDR au bureau du PNUD à Bounia indiquent que ce principe a été négocié, adopté et fixé de commun accord avec les ministres de la Défense avant le lancement de l'opération de désarmement. Fidel Djadé.
Les directives du ministre de la Défense nous orientent à utiliser deux critères. Le premier critère, c'est le respect strict du ratio un homme, une arme. Et le deuxième critère, c'est être dans la liste. Tout ex-combattant qui n'a pas respecté le ratio et qui n'est pas sur la liste ne sera pas accepté aussi de transit.
Selon le leader des trois groupes armés de l'Ituri, cette situation risque de bloquer les processus de désarmement et de décourager d'autres combattants candidats au désarmement. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
C'est ce mardi qu'a débuté le procès qui oppose le ministère public à Kyungu Mutanga, dit Gédéon. L'audience se tient à Kipushi, à 30 km de Lubumbashi. Aujourd'hui, le tribunal militaire garnison du Haut-Katanga a procédé à l'identification du prévenu, des victimes, des témoins et des renseignants. Rappelons que Kyungu Mutanga, alias Gédéon, est poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, mouvements insurrectionnels et terrorisme perpétré dans les localités de Mitwaba, Pueto et Manono entre 2003 et 2006. De Kipushi, Paul Mutanga revient sur l'essentiel de l'audience.
L'audience a débuté à 10h30 dans la salle du cercle Kamarengue de Kipushi devant près de 200 personnes. Le prévenu Kyungu Mutanga s'est présenté devant la barre portant une cagoule. Le juge président l'a obligé de l'enlever pour qu'il soit identifié. Le prévenu a demandé à sa femme de lui enlever cette cagoule. La majorité des témoins et renseignants cités par le ministère public n'étaient pas dans la salle. Ils n'ont pas pu effectuer le déplacement de Mitwaba, Pueto et Manono vers Kipushi. On a noté la présence dans la salle de l'ancien gouverneur du Katanga, Irben Kisulangoy, qui est cité en qualité de renseignant. Parmi les renseignants, le ministère public a également cité Titez Diemou, ancien vice-gouverneur du Katanga et actuellement ministre national de la Défense. Dans la lecture de l'acte d'accusation, le président du tribunal a rappelé les exactions commises par Gédéon et ses lieutenants à Mitwaba, Pueto et Manono. L'audience s'est terminée à 12h30, heure locale, et la cause est renvoyée au 21 août prochain. Depuis Kipushi, dans le district de Haut-Katanga, Paul Mutanga pour Radio Okapi.
Trois ouvrages inaugurés aujourd'hui dans la commune de Kisenso à Kinshasa. Il s'agit d'une école de 6 salles au quartier Mujinga, d'une morgue de 15 places et du siège du conseil communal de Kisenso. Ces ouvrages sont réalisés grâce au financement de la coopération technique belge à travers son programme PEDECO, programme d'appui aux initiatives de développement communautaire. Le coût global des travaux dépasse les 140 000 euros. Pour le conseiller technique principal national du PEDECO, avec l'acquisition de ces ouvrages, la commune de Kisenso dispose enfin des infrastructures de base pour son développement. Eric Dickens est au micro de Nazan Coco.
C'est déjà 5 ans qu'on travaille ici. Dans tous les secteurs, on atteint maintenant un niveau où on peut dire que les infrastructures de base sont un acquis.
Une école pour un quartier pauvre.
Donc ça, c'était le dernier quartier qui n'avait pas encore une infrastructure d'éducation propre. La couverture sanitaire pour la commune, c'est un acquis. Dans tous les domaines, on peut dire qu'on a une situation de départ à partir desquelles on peut vraiment commencer à faire des améliorations sensibles auprès de la population.
Des édifices pour le conseil communal, pour les élections qui ne sont pas encore organisées.
En attendant que les élections se font, ce bâtiment seront utilisés par les commissions communales de développement qui représentent en fait toutes les forces vives de la commune qui sont élues par corporation. C'est eux en fait qui veillent sur la sélection des micro-projets qui conçoivent un peu comment développer la commune de façon économique parce que finalement il faut que l'économie commence à tourner, que ça donne des revenus auprès de la population.
19 782 dollars américains pour la réhabilitation d'une école secondaire à Buburu dans la province de l'Équateur. C'est un don du gouvernement des États-Unis en RDC. Un protocole d'accord a été signé ce mardi matin à Kinshasa entre l'ambassadeur américain Roger Miss et l'ONG Action et Intervention pour le Développement et l'Encadrement Social. L'AIDES est chargée de construire 9 classes, 4 latrines et un puits d'eau potable pour cette école qui doit recevoir environ 3000 élèves. Notons que ce financement est accordé dans le cadre du fonds de l'ambassadeur aux réfugiés. Au micro de Mimi Ngumba, le représentant national de l'AIDES revient sur la nécessité de cette aide.
Ça va profiter de 10 000 élèves qui sont en train de souffrir à Buburu parce que là, il n'y a pas d'infrastructures scolaires. Tout a été mis en boule. Ça va aider aussi à des villages environnants.
La rentrée scolaire intervient dans un peu plus d'un mois. Pensez-vous terminer les travaux avant la reprise de cours?
Nous pouvons faire 80% de travaux et le reste, ça sera les retouches. Ça va aller et j'espère que cette année qui va commencer passer, les élèves pourront quand même étudier convenablement. Parce que nous sommes déjà en train de fabriquer devant et nous sommes en train de réfectionner là où ça ne demande pas beaucoup de travaux à faire. Là où il faut construire, c'est là où je dis qu'on pourra faire 80%.
Notons que Bouburu est une localité du sud Ubangi où fonctionne un centre de rassemblement pour réfugiés rapatriés. 5 membres du personnel civil de la MONUC sont suspendus depuis hier lundi. Il leur est reproché des irrégularités dans les procédures d'achat des biens et des services. Pour Kema Saïki, porte-parole de la MONUC, il s'agit d'une mesure conservatoire en attendant l'aboutissement de l'enquête, mais le porte-parole de la MONUC n'indique pas si les 5 personnes suspendues font partie du personnel local ou international de la mission onusienne au Congo. Kema Saïki, porte-parole de la MONUC, explique les raisons de cette suspension au micro de Babel Pongo.
Une enquête menée par le bureau des services de contrôle interne des Nations Unies a conclu à l'existence des irrégularités dans l'acquisition de biens et de services. Apparemment, il s'agirait surtout de relations inappropriées avec des fournisseurs de biens ou de services. Il a été décidé de suspendre 5 membres du personnel qui semblent être impliqués dans cette histoire. La procédure va se poursuivre qui consiste à déterminer la responsabilité exacte.
La suspension, c'est pour combien de temps?
Il n'y a pas d'indication de date, mais ça peut aller d'un mois, 2 mois ou 3 mois. Ça dépendra du temps que l'enquête déterminera.
Qu'est-ce qui est prévu pour que ce genre d'agissement ne se répète plus?
Ça va être un renforcement des contrôles parce que nous avons des règles à ce sujet. Il va falloir simplement veiller à ce qu'elles soient renforcées davantage et qu'elles soient mises en application, peut-être avec plus de rigueur.